Vous écoutez le Calicast, le premier podcast français sur Doctor Who.
Salut, salut et bienvenue dans le Calicast épisode 110. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de la saison de The Key to Time. On va parler de The Pirate Planet. Sont avec moi ce soir pour en parler l'éternel, la rebelle, Dusty.
Salut.
Ça va?
Ça roule à fond.
Voilà. On a également avec nous, qui nous fait son grand retour, celui qui disait, je ne sais plus quel animal, un lapin je crois. Oui, un lapin. Voici Heinrich, voici Ludo.
Bonsoir.
Et là on a un nouveau, alors vous dites, oh j'en ai marre des nouveaux dans le Gallicast, on a toutes les semaines. Eh ben je m'en fous. Voilà, parce que là, il y en a encore un. Et celui-ci, je pense qu'il va rester assez longtemps avec nous. D'ailleurs, il a rejoint très récemment le staff de Gallifrance pour l'événementiel. Et il rejoint aussi, quand il peut, l'équipe du Gallicast. Ça fait 6 mois que je lui ai demandé d'acheter un micro. Il l'a enfin fait. Nous rejoint pour la première fois dans le Gallicast, Benjamin Martin.
Oui. Bonjour à tous.
Ça va, Benjamin?
Ça va, ça va.
Donc avant, s'il te plaît, il y a mon frère derrière qui crie, qui est très content. Avant de parler de Benjamin, savoir sa vie, son œuvre, on va passer, même avant le sujet de la semaine, on va passer tout de suite aux news.
Les news.
Les news. Alors aujourd'hui, qui s'occupe des news? C'est Dusty. Alors Dusty, quoi de nouveau cette semaine?
On va commencer avec les news sympas. Déjà, Paul McGann, parce que c'est vachement important. Donc il a signé une pétition pour voir arriver justement un spin-off sur le 8e Docteur. Mmh. Donc, il a déjà dit plusieurs fois qu'il était vraiment emballé du moment que c'était bien écrit pour faire une mini-série sur le 8e Docteur. Donc il y a une pétition qui avait été lancée, il a dit qu'il l'avait signé, il a dit ça lors de la convention qui s'appelle Comic Palooza.
Ok.
Voilà, donc ça c'est cool.
Ok, bah oui, c'est une bonne nouvelle. Quoi d'autre comme news?
The Five-ish Doctor, qui était en fait l'épisode filmé 50, des 50 ans avec les docteurs classiques, donc ça a été un truc qui a été fait avec, si vous ne l'avez pas encore vu, avec Peter Davison, c'est lui qui a réalisé le truc, avec donc le docteur 5, 6, 7 et 8.
Mmh. Et 4 entre guillemets.
Et le 4 au téléphone, pas tout à fait, mais. Mmh. Donc il y a une possibilité d'une sortie en DVD, donc qui est annoncée, mais on ne sait pas encore exactement quand est-ce que ça va sortir, même s'il va y avoir éventuellement une version Blu-ray. Il y aura des bonus, avec probablement des scènes coupées et tout ça, donc ça
Tu expliques un petit peu de quoi ça parle de Five-ish Doctor's Reboot pour les dernières personnes qui ne l'auraient pas vu.
Oui, ou... alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la polémique qu'il y avait eu autour de l'épisode des 50 ans, donc l'épisode de Moffat, qui plusieurs fois avait quand même répété « Non, il n'y aura pas de docteur classique ». Et les fans attendaient quand même ce qu'il y ait des docteurs classiques, c'est l'épisode des 50 ans, donc ils auraient pu au moins apparaître sous une forme ou une autre. Et donc, pour protester, Peter Davison a dit « Si vous mettez aucun docteur classique dans l'épisode des 50 ans, bah, moi je fais mon épisode des 50 ans dans mon coin ». Donc il a retrouvé ses potes Colin Baker, Sylvester McCoy et Paul McGann. Ils avaient contacté aussi Tom Baker pour faire un truc. Et donc c'est un énorme épisode à la fois un peu parodique, mais qui est bardé de références à la série classique, avec les docteurs qui vont s'infiltrer dans le lieu de tournage à Cardiff, où on tourne les épisodes de Doctor Who, pour essayer de s'incruster justement dans l'épisode de Moffat. Et c'est très très fun. C'est très drôle. Et puis surtout, en fait, tous les gens qui apparaissent dans le film sont des gens qui sont en lien avec Doctor Who, que ce soit des gens qui travaillent dans l'administration ou des acteurs que vous avez déjà pu croiser, ou des gens comme le fils de John Pertwee. Voilà, donc The Five-ish Doctor Reboot, c'est très 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 drôle et c'est génial.
À recommander, hein, si je peux donner mon avis.
Non, tu peux pas. Alors.
Merci Thomas.
Il y a quoi d'autre comme news?
Doctor Who qui continue à glaner des prix un peu partout. Donc Doctor Who a gagné
le prix
Banff.
c'est le prix de la meilleure saucisse, non?
Voilà, c'est un festival canadien en fait. C'est le Festival international des médias de Banff. Apparemment, c'est un gros event qui récompense les médias au Canada. En fait, Doctor Who a gagné cette année deux prix, celui du meilleur science-fiction, action et imagination, et ensuite de la catégorie meilleur script aussi. Donc voilà, c'est pour la nouvelle saison, la dernière saison, je crois.
Ah bon, ah, ok, bon.
Il me semble. Et puisqu'on est dans les prix, Peter Capaldi a remporté un prix en Écosse, un RTS, c'est Royal Television Society. C'est un principal forum de la Grande-Bretagne pour la télévision et médias associés. Donc c'est, il récompense l'excellence des acteurs, ce genre de choses, quoi. Donc c'est, ça fait encore une médaille pour Capaldi, puisque c'est quand même un acteur qui est exceptionnel. Donc c'est ça, ils reconnaissent en fait toute sa contribution à la télévision britannique.
Ok, bah c'est, enfin, en même temps, c'est un comédien qui le mérite. Hein.
Ah oui, il a une carrière impressionnante. Mmh, mmh.
C'est un excellent acteur, déjà avant Doctor Who, tout ce qu'il faisait, bah, le fameux téléfilm Hotel, qui est lui aussi absolument génial, où il retrouve Paul McGann. Ouais, et c'est, d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous conseille. Moi, je l'ai pas vu en entier, mais pour ce que j'ai vu, je me suis vraiment bien marré. Je dois dire que c'est l'humour, c'est l'un des humours les plus lourds du monde. Mais ça passe.
C'est voilà. La cité de la peur, mais version britannique, avec voilà. les gags les plus nuls qu'on ait jamais inventés, et c'est très très fun. Ouais.
Voilà. C'est un petit peu comme mes blagues, quoi. C'est tellement nul qu'on est censé en rigoler. J'ai bien dit censé. Eux, ouais, ça marche, en fait. Moi un peu moins. Voilà. Quoi d'autre comme news ?
Ah, puisqu'on est dans le 12e docteur, il faut savoir.
On est dans le 12e docteur.
On est à fond dans le 12e docteur, c'est l'aventure intérieure. Il y a des romans qui vont sortir sur le 12e docteur, oui, déjà. Ils sortent à partir du 11 septembre cette année.
Donc, la date bien choisie.
Ouais. Le 12e docteur fait tomber les tours.
Ouais. Donc, il y a trois.
Il y a trois romans, donc on sait qu'il y en a un qui est écrit par Justin Richards, qui a déjà écrit tout plein de romans pour Doctor Who, un autre par James Goss, et un dernier par Mike Tucker. Moi aussi, Mike Tucker, très très impliqué dans la série classique.
J'ai une question.
Oui.
Si le livre est nul, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un attentat envers le 12e docteur ? Voilà. Je m'en vais.
Mon Dieu.
Oui, quelqu'un m'a appelé. Voilà.
Donc bah, ces bouquins sortent juste une semaine après le début de la diffusion de la saison 12. Donc bon, ça, moi je trouve ça un peu short pour
la saison 12.
La saison 8 avec le 12e docteur, quoi. Je m'y comprends. Donc en parlant de la saison 8 justement, il se trouve que en Allemagne la Fox a une filiale en Allemagne. Donc la Fox c'est une chaîne américaine. Peut-être déjà. Donc une filiale de National Geographic, ben eux ils annoncent qu'ils vont diffuser la saison 8 de Doctor Who en simultané avec BBC One. Donc bon, c'est bien pour les Allemands, c'est pas en France qu'on peut voir ça, mais. Voilà.
Bah au moins ça peut donner des idées, dirons-nous, ou encourager et montrer quand même que le fandom augmente à travers le monde de la série. Voilà.
Ça évite de pirater.
Il reste. Oui, totalement.
La saison 8, toujours, on a deux nouveaux guests qui apparaissent. Alors, c'est deux acteurs, donc Christopher Fairbank, qui apparemment, que je connais pas du tout, hein, qui a joué dans des films comme Batman et dans Cinquième Élément.
Ok.
Je sais pas ce qu'il fait dans Cinquième Élément.
Il joue le rôle du Cinquième Élément.
Je ne sais pas. Et Joy Van Wade.
Lui, il joue le rôle de Lilou dans le Cinquième Élément.
Mais non, et lui il est pas dans le Cinquième Élément, il est dans la série qui est avec Catherine Tate, qui s'appelle Big School.
C'est parce que Lilou en fait c'est le chat hein, dans le Cinquième Élément. C'est pour ça.
Mais non.
Voilà. Si Lilou c'est le chat.
Dallas Multipass. Lilou c'est la
hammer. Voilà.
Voilà pour la saison 8. Après une news plutôt côté spin-off, le spin-off audio The Minister of Chance, dont on a déjà parlé, fait un Galicast dessus ou un Galilive. Donc ils ont fait une adaptation filmée du prologue, donc le premier épisode de la série audio, qui a été diffusé en accès uniquement aux gens qui ont payé, qui ont financé le film.
Enfin normalement, hein.
Oui, voilà. Bon. Donc maintenant, il va être accessible à tout le monde, et ça, c'est à partir du 22 juin. Alors, j'ai pas l'heure exacte, mais surveillez le site ministerofchance.com. Là, ils sont en train de le refaire, donc il est down. Mais sinon, vous allez sur, pareil, ils sont sur Facebook. Et si vous connaissez pas encore la série The Minister of Chance, ben profitez-en. C'est une série gratuite avec un casting de ouf dingue, et notamment dedans, il y a Paul McGann, Sylvester McCoy, Sophie Aldred, Julianne Wadham, pour ne citer que cela. Puis il y a des gens qui sont dans Le Hobbit aussi. Voilà, très bonne série. Vous avez des résumés en français sur Gallifrance aussi.
Et ça ne fera que 200 fois que Dusty vous le dit. Mais ça marche. Hein, la preuve.
Voilà.
D'autres news ?
Eh ben non, c'est bon pour les news.
Eh ben c'est tout pour cette semaine. Eh ben on va passer au sujet de la semaine.
Le sujet de la semaine.
Le sujet de la semaine. Alors, à cause d'une boucle temporelle, eh ben quelqu'un qui n'était pas là au début, bah il est là maintenant. C'est Jonathan.
Oui, je suis toujours en direct devant le bâtiment, il ne se passe toujours rien.
Oui, alors vous avez vu les invités qui ont commencé à rentrer dans le bâtiment ? Toujours pas ?
Absolument pas, je suis à peu près deux rues en face du bâtiment, la rue est bouclée par la police, il y a un flic devant moi, c'est
bon, alors on se calme,
je ne peux pas passer.
Bon, alors on va présenter, bah, il y a quand même un nouveau dans le Gallicast, c'est Benjamin. Allez, Benjamin, tu te débrouilles, tu te présentes, non je rigole. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Présente-toi rapidement.
Je me présente, je m'appelle Benjamin, je gérais le Galli Hotel jusqu'à très récemment.
Oui, parce que, pourquoi le Galli Hotel ? En fait, Benjamin héberge 90 personnes par semaine.
Pour Galli France.
Oui.
On va organiser les conventions directement chez Benjamin, en fait.
Ah bah c'est très bon chez toi, alors.
J'ai un invité exceptionnel, William Hartnell, qui va bientôt venir. Dans son petit sachet.
Oh, c'est dégueulasse.
Bravo.
Excusez-moi.
Vous.
Oui, tout à fait. Non, bah voilà, fan de Doctor Who depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ?
Alors, comment tu as connu Doctor Who ?
Voilà, c'est une longue histoire. Je suis venu à Doctor Who via Torchwood, en fait.
Ok.
Et
tu t'es lavé les mains entre-temps ?
Oui, arrête, Torchwood, c'est bien.
Non, mais j'aimais pas Torchwood. Mais j'étais intrigué par certains épisodes et j'ai découvert que c'était le spin-off d'une autre série, donc j'ai commencé à regarder cette autre série, j'ai accroché et voilà.
Ok. Ton docteur préféré ?
William Hartnell. Pour moi, c'est le docteur.
Ouais. William Hartnell,
tu
c'est
dis
le
ça parce qu'il n'y a pas Manon derrière toi, en fait.
Non. Même il y aurait Manon, ce serait. Elle le sait très bien. William Hartnell. Dans les classiques et Christopher Eccleston dans la nouvelle série.
Ok. Ok, ton docteur préféré, qu'est-ce que... Ton histoire préférée, tiens, si t'en as une.
Bah, étant donné que je n'ai pas fini de regarder toute la série classique, je vais m'arrêter.
Bah, pour l'instant.
Suis, voilà.
Dans toute la série, hein, même nouvelle série.
Ouais. Dans nouvelle série, il n'y en a pas beaucoup. dans la série classique, j'ai beaucoup aimé...
Oui.
Je reviens pas. Et non, mais j'ai pas d'épisode.
Inferno.
Préféré. Oui, Inferno était très intéressant.
Arrête avec Inferno. On sait tous que c'est ton épisode préféré.
Ah bon ?
Zagreus.
Oui, Zagreus, c'est bien aussi.
Et sans les audios.
Non, je vais pas dire que j'ai un épisode préféré. En fait. Je vais dire que le premier épisode qui m'a vraiment interpellé quand j'ai regardé la série classique, c'était Age of Destruction.
Redis-le.
The Edge of Destruction. Voilà. Wow. Je dis bien là ?
Ouais, c'est très bien.
Cet épisode m'a vraiment interpellé. Après, je vais pas dire que c'est mon préféré, mais merde aussi, je peux dire. Je me rappelle plus comment il s'appelle. L'épisode qui se passe dans le Far West avec le William Hartnell.
Attends, c'est aimé ?
Oui, j'aime bien. Oh,
c'est The Cowboys.
The Cowboys, non, il a un nom.
Non. Attends, je peux vérifier.
The Gunslighter, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça.
The Gunfighter. J'ai beaucoup aimé cet épisode.
Je vais vous faire marrer avec ce coffret. Parce qu'il est sorti en coffret avec. Non, mais c'est pas une blague. Il est sorti avec une autre histoire de Peter Davison qui c'est The Awakening. Les deux histoires n'ont absolument rien à voir entre eux. Mais alors, strictement rien à part qu'elles se passent sur Terre. Mais elles sont dans un coffret qui s'appelle Earth Story.
C'est très intéressant.
Voilà. Bah, quoique des histoires dans la série classique qui se passent sur Terre, il n'y en a pas tellement.
Non, c'est vrai.
Vous regardez.
Bah, si.
Non, mais pas dans ta gueule. je t'expliquerai. Oui, je t'expliquerai plus tard. Ok, donc ton histoire préférée. Bon, bah, je crois qu'on a un peu tout. Ton compagnon préféré, peut-être.
Pour moi, les compagnons, c'est. Je vais rester sur William Hartnell, c'est Yann et Barbara.
Bah, et Lee Shaw.
Il n'en est pas là encore.
Adri.
Si, j'ai passé tout ça. L'Ishio, elle était bien, mais comme beaucoup de compagnons de John Pertwee, elles étaient un peu mises en retrait, je trouve.
D'ailleurs, je tiens à préciser que j'en ai marre lors des événements Galifrance quand on fait des times up, donc dans la manche avec le mime, d'avoir mis Adric parmi les personnages à mimer. Parce que j'en ai marre de voir à chaque fois des gens imiter une explosion ou...
Coupe de cheveux improbable.
Comment ?
Des cheveux improbables.
Des cheveux en plastique, comme dit Michel. Voilà.
Très intéressant.
Voilà. Alors, bon, on a tout dit, de toute façon, c'est que Benjamin.
Oui,
donc,
voilà,
on va passer au sujet de la semaine. Enfin, on y a déjà passé, on est déjà dans la catégorie. On va parler de cette semaine de The Pirate Planet, écrit par...
Merci. Douglas Adams.
Douglas Adams. Qui veut expliquer en gros l'histoire? Tiens, Benjamin, tes bisous. Essaye d'expliquer.
Regarde la fiche Gallifrance.
Non, c'est de la triche. Maintenant, le résumé fait deux lignes en plus, donc c'est pas très intéressant. Non, alors, moi, comme résumé, donc, c'est la deuxième partie de l'histoire de la clé du temps.
Mmh.
Et donc, le docteur se matérialise sur une planète dont on ne connaît pas le nom encore. Enfin, si, il cherche à aller sur la planète. Ah merde, j'ai pas noté ça.
Califrax.
Voilà, merci beaucoup.
On dirait le nom d'un médicament.
Pas faux.
C'est quoi que t'as pas compris?
Ta gueule. Et il se rend compte qu'il est au bon endroit au bon moment, mais pas sur la bonne planète. Donc s'ensuit toute une série d'histoires. Il se rend compte qu'ils sont sur une planète vampire, on va dire.
Vampire.
Moi j'ai noté ça, une planète vampire qui absorbe, qui compresse les d'autres planètes pour en extraire une énergie pour faire quelque chose que je sais pas si on peut en parler.
Non, tu dis la fin là.
Non, j'ai rien dit.
On va dire rien.
Ce qui me fait penser à certains, tu sais que pendant le Geekopolis, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, ce serait bien si vous ayez une partie spoiler dans les Gallicas, parce qu'on a, c'est arrivé d'ailleurs quand on appelle The IT Crowd, c'est que les gens étaient déçus qu'on ne parle pas plus des épisodes, même quand ils connaissaient pas. Alors il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen de parler des spoilers dans les Gallicas aussi.
Bon, on ferait ça après, peut-être après le générique de fin, je sais pas.
Oui, voilà.
Mais pas cette fois-ci, parce que là, moi, j'ai fait un épisode, le second épisode de Tintin, et Mofatopoulos. Hein. Voilà, donc... je crois que l'histoire est assez claire, en tout cas. J'espère que vous avez écrit le scénario, bien sûr. Alors, vous allez tous me donner un petit peu votre avis général. On va commencer cette semaine, comme chaque semaine, par Dusty. Je sens que je l'ai pris de court.
Non, c'est pas le meilleur épisode, clairement, à la fois dans ce qu'a écrit Douglas Adams, c'est déjà un peu beaucoup plus actif que Rebus Operation.
Ouais.
Le principe de la planète qui jump sur d'autres planètes, j'ai trouvé ça rigolo. Ça changeait un peu, je sais pas si c'était déjà un truc qui était déjà exploité dans la science-fiction ou pas.
Bonne idée.
Ce qui est pas mal, c'est les personnages vraiment haut en couleur. Donc le capitaine qui est à moitié robotisé, qui est une espèce d'énorme caricature aussi, parce qu'il passe son temps à hurler.
Mm-hmm.
Sur son second, la Mister Fibuli, là, qui est toujours en train de lui cirer les pompes.
Benjamin et moi, on est d'accord sur un truc. Benjamin, dis-le toi. Hein,
tu voulais le dire, Thomas.
On trouve que Mister Fibuli ressemble à Darry Cole.
C'est vrai.
C'est la première chose que j'ai pensé.
Petit canaillou.
Non, mais ça n'empêche pas que c'est quand même Andrew Robertson.
Oui. C'est un des personnages les plus intéressants de l'épisode.
Ouais.
Ouais. Et puis donc, après, il y a la bonne femme qui est toujours derrière lui, là, qui est. Sinon, après, moi, j'ai trouvé que Fort était pas mal. Romana, par contre, elle est un peu badass dans celui-là, quand même.
Elle est chiante.
Une partie où elle prend carrément la flingue.
Arrêtez de dire qu'Adric est chiant. En fait, c'est elle, quoi. Je trouve Romana, enfin, en tout cas, Romana 1 beaucoup plus chiante que.
Elle est plus drôle dans Rebus Operation, par contre là elle fait des trucs.
Ah voilà. Je la trouve insupportable.
Non, elle prend de la marge, je trouve aussi, comme Dusty, je pense, j'ai noté ça aussi.
Et j'ai bien aimé les Mantiats aussi. Bon, ils ont un maquillage, on dirait une partie de vampire, mais. Ça spoil si on raconte l'histoire, ils sont créés à chaque fois qu'il y a un nouveau jump de la planète.
Ok.
Ils récupèrent.
Ce sont des Sims, quoi.
Ouais, mais bon, comme ça, si la planète saute sur une planète, ça tue les gens, et voilà, et l'énergie résiduelle, pouf, ça crée un mec.
Ok.
J'avais pas capté ça.
T'es en train d'imaginer Mantillades avec le petit icône vert au-dessus de l'antenne.
Non. Samson. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est bien, merci Jonathan. Benjamin, comme c'est le nouveau hein, quand même. Ton avis sur les général sur l'histoire?
Comme Dusty, j'ai trouvé que cet épisode n'était pas folichon, mais alors je vais me faire des ennemis parce que le quatrième docteur n'est pas le docteur que je préfère.
Ouais.
Cet épisode est dans la
ligne. Tu m'as même dit que c'était celui que t'aimais le moins pour l'instant.
Pour le moment, oui, tout à fait. Et je trouve qu'il est dans la lignée des autres épisodes du quatrième docteur, c'est-à-dire assez plat. Il a un encéphalogramme assez plat. Il n'y a pas trop de rebondissements, ou alors ils sont vraiment pas intéressants. Cet épisode, sinon, il était intéressant. Oui, le capitaine, il m'a fait rigoler. Il m'a fait penser à un ennemi des G.I. Joe avec ses gadgets sur les côtés.
c'est méchant dans les Tortues Ninja.
Non, mais c'est... Oui, ou dans les Tortues Ninja. Oui. Ça m'a fait penser à ça. Après, le monsieur Fibuli, donc, qui ressemble à Darry Cole, ouais, c'était pas mal. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il y a plein de choses qui sont ridicules dans ce film. Par contre, oui, le casque des soldats du capitaine, je trouve qu'il ressemble beaucoup au casque des Ice Warriors.
C'est un casque médiéval?
Non, c'est un casque classique avec les caches sur
les yeux. Oui, qui est noir. Oui, je vois de quoi tu parles un peu. Voilà. Oui.
Et il ressemble, moi j'ai trouvé que
ça je crois que ce sont même les mêmes pans en noir. Je pense que ce sont les mêmes pans en noir.
Oui, voilà, c'est du recyclage, je pense. Bon,
ouais, c'est très courant, quoi. Heinrich, ton avis, tiens, général, sur l'histoire?
J'ai trouvé que c'était cool. Enfin, c'est pas le genre d'épisode qui laisse une marque indélébile.
Pourtant, c'est du Douglas Adams.
Oui, voilà, ça m'a un peu étonné. J'ai lu après l'affiche en voyant que c'était du Douglas Adams, je me suis dit, mais ça ressemble pas tellement à du Douglas Adams.
Ok, mais je pense que ce qui est en partie, je pense que le fait que l'histoire a été beaucoup réécrite, je pense que Jonathan peut nous en dire plus par rapport à la réécriture.
Je peux vous en dire plus et à la fois pas trop parce que j'avoue que je connais pas beaucoup. Je connais pas le point de vue de Douglas Adams dessus. Je ne rappelle pas avoir vu une interview où il parlait de The Pirate Planet. Oups. J'ai lu toutes les œuvres de Douglas Adams. En intégralité, j'ai vraiment tout lu, tout ce qui a été fait sur Douglas Adams. C'est vrai que c'est certainement la plus mauvaise histoire qu'il ait écrite. Mais en fait, non, parce que c'est pas de sa faute. Comme City of Death, il y a quelqu'un qui est passé après le premier scénario. Dans le cas de City of Death...
Steven Moffat?
Non, pas Steven Moffat. Ça aurait été bien pire. Dans le cas de City of Death, c'était Douglas Adams qui parlait, qui passait à côté, après David Agnew. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est
maintenant, David Agnew, il n'existe pas.
Mince, comment il s'appelle déjà?
Oui, alors, à chaque fois, on oublie son nom.
Chaque fois, on oublie son nom. Le pauvre. Et pourtant, il avait écrit une bonne histoire.
Ouais. Mais... Alors qu'en fait, on ne se souvient de son prénom que pendant les City of Death Tour.
Oui.
Il y a que sur place, on dit. En fait, faut qu'on soit devant le lieu. Faut qu'on se, on est.
En fait, c'est l'inverse, c'est le TARDIS qui a atterri là et on se rappelle quand on se tient à un endroit précis.
Voilà.
Douglas Adams avait déjà proposé une histoire avant à la BBC qui avait refusé. En fait, c'était pas la première fois, d'ailleurs, c'était la deuxième fois. C'était à propos d'une arche dans l'espace et puis il y avait The Ark in Space qui avait été fait en même temps. Coup de coïncidence.
Oui, mais cette arche en mettait toutes les personnes jugées inutiles.
Oui.
Donc
oui,
les banquiers, les courtiers en bourse, les coiffeurs.
Voilà. En fait, ça a été plus tard réutilisé dans H2E. Et c'est, j'avoue que c'est génial. Bizarrement, il a pas réutilisé grand chose de ce Pirate Planet dans le reste de ses œuvres. À mon avis, je pense que Douglas Adams devait vraiment, vraiment pas être content de son scénario de base.
Je sais que son scénario, non, il l'aimait. En fait, c'est le résultat télévisé.
Le résultat, non, il l'aimait pas du tout. De toute façon, il a jamais aimé les retards télé de ses œuvres. C'est pareil, la série H2G2, il l'aimait pas du tout parce que c'était toujours fauché quand c'était par la BBC. Lui, ce qu'il voulait, c'était du gros budget. C'était en fait un truc de rockstar qu'il voulait. C'était une opéra rock à chaque fois qu'il voulait faire. Voilà, Peter Jackson. Et il était toujours déçu de cette adaptation. Pour The Pirate Planet, à la base, c'était une histoire en 6 parties. qui a été très très réécrite pour tenir en 4 parties. Donc il y a des tout un tas de gags en fait qui sont passés à la page. En fait, qui c'est qui l'a réécrit? Je sais plus parce que j'ai pas affiché en face des yeux, je suppose. En fait, il a supprimé tout l'humour de Douglas Adams du scénario et il a laissé que quelques petits trucs qui ont été rattrapés un peu par Tom Baker qui a disons arrive à bien surligner l'humour de Douglas Adams.
C'était Anthony Reed à l'époque.
Anthony Reed. Et je pense qu'en fait Anthony Reed n'aimait pas compris l'humour de Douglas Adams, qui est vrai était particulier.
En fait c'était peut-être que le scénario était vraiment complexe, beaucoup plus complexe hein.
Ah oui, ça il était complexe de toute manière. Oui, parce que il y avait une histoire de paradoxe temporel.
Oui, d'un seigneur du temps
qui était coincé dans une machine.
Exactement.
Donc ça aurait été ultra compliqué, mais ça aurait été ultra génial. Ça aurait donné un truc du genre à Shada, en fait.
Et c'est Anthony Reed qui l'a appelé.
Voilà, ça a été complètement réécrit pour passer parce que je pense qu'ils avaient, enfin, ils ont toujours des impératifs financiers. Je pense que le scénario de Douglas Adams, c'était irréalisable financièrement. De plus, il tenait pas le nombre d'épisodes, puisqu'il y a eu 2 épisodes qui ont été supprimés. Et c'est bien dommage. Mais, cela dit, on sent quand même que c'est une histoire de Douglas Adams dans les personnages, en fait.
Ouais.
Ils sont très caricaturaux, mais pas dans le mauvais sens, pas comme en France on peut faire de la caricature en fait. C'est-à-dire que leurs traits sont exagérés. On a justement Mr. Fibulé qui est prêt à retourner sa veste, qui est toujours penché en avant en disant attention monsieur, voilà il y a ça, mais c'est lui qui n'y arrive jamais rien. On a le capitaine qui est complètement fou, qui crie dans tous les sens, c'est cyborg tout ça, il y a plus de logique dans ce qu'ils font. Et on a tous les gens qui sont sur la planète qui suivent bêtement en fait, qui sont pour rien. Et c'est typiquement du Douglas Adams. Après, comme tout ce qui était humoristique par rapport au personnage a été supprimé ou atténué, c'est sûr que quand on voit l'histoire et qu'on sait que c'est du Douglas Adams, on est vachement déçu.
Il y a un sacré manque de travail et c'est dommage. Alors, moi, ça m'a fait penser à Silver pour la nouvelle série, histoire de comparer, à Silver Nemesis écrit aidez-moi.
Oui, attends, c'est Neil Gaiman.
Neil Gaiman. Parce que...
Nightmare in Silver, pardon.
Non, mais j'en ai marre des Silver. Oui, Nightmare in Silver, ouais, c'est bon, là, je me cours pas. Qui a été grandement réécrite avec l'histoire du portable, pourquoi le TARDIS donne un portable aux enfants à la fin, qui n'a aucune raison dans l'histoire, alors que normalement, c'en avait une. Donc le fait qu'il y ait plein de choses réécrites et que une histoire géniale se retrouve à être moyenne.
Et... Oui, voilà, c'est le même cas, hein, parce que Neil Gaiman, lui, c'est pareil, c'est un auteur qui est du même niveau que Douglas Adams au niveau de l'intelligence de ses histoires, de l'humour qu'il arrive à mettre dedans, même si c'est pas tout à fait le même humour. Mais t'as le script editor qui est au-dessus, qui change ses plans tout d'un coup du jour au lendemain. Parce que ça a dû faire mal à tous les scénaristes qui travaillaient. Moffat a dit ah bah finalement la Clara ce sera plus la Clara de l'époque victorienne mais une Clara du une Clara moderne. Je pense que ça a dû bien faire chier Neil Gaiman parce qu'il a dû tout réécrire la dernière minute.
Mais ça après c'est une autre histoire. Mais sinon pour revenir à l'histoire de Pirate Planet, j'avais trouvé ça un peu dommage. Tout le monde est déçu parce que il y a de plus en plus de fans qui regardent la série classique. Et sur Doctor Who classique, à chaque fois que les gens viennent à parler de cette histoire, Doctor Who classique FR quoi, à chaque fois il y a comme cette déception. Certains trouvent le scénario très bien, mais il y a toujours un mais. Je pense que le fait que ce soit Douglas Adams, en plus les fans en attendent énormément parce que clairement, Douglas Adams place en général la barre tellement haute que là, quand on voit ça, on se dit c'est du normal, quoi. Elle est pas géniale, elle est normale. C'est une bonne histoire.
Voilà, elle est plate, c'est ce que je disais.
Moi, personnellement, j'attends la novélisation. Enfin, j'espère qu'elle arrive, parce que toutes les trois histoires de Douglas Adams ont donc pas été novélisées, parce que Douglas Adams voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive. Le prochain par Gareth Roberts, c'est City of Death, et j'aimerais sincèrement qu'il finisse La Clé du Temps avec Pirate Planet, parce que effectivement, toutes les histoires de La Clé du Temps sont sorties, sauf The Pirate Planet. Alors c'est un peu con dans les... J'avoue que ça a dû faire bizarre les gamins à l'époque quand ils achetaient les Tarnjet, fallait dinguette. Parce que t'avais toutes les clés du temps, sauf The Pirate Planet.
Donc du coup, il te manquait un morceau de l'histoire. Ouais. C'était pas très...
Surtout, surtout à une époque où ouais. t'avais pas accès aux cassettes ouais, et tout ça, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à cette histoire, peut-être l'aspect réalisation et les effets spéciaux entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets visuels, des effets très kitsch. J'ai trouvé cette histoire, et quatrième Docteur, The Rebirth Operation a toujours ce côté très années 70, un peu kitsch, mais là, on doit quand même avouer que il y a un summum dans le kitsch. Hein.
Pour les décors, il y a une anecdote assez marrante. Parce que je peux te dire que l'équipe de tournage dans le vaisseau, ils ont eu peur. Parce que toutes les scènes qui se passent aux alentours du moteur, donc il y en a
c'est
pas beaucoup.
Usine,
c'était dans une centrale nucléaire. Et c'est pas une blague. Et l'équipe de tournage avait peur quand ils ont tourné ça. Parce que forcément, radioactivité, il n'y a pas eu de problème apparemment, mais ils ont eu les fois. Mais c'est vrai que, non, moi j'avoue que niveau décor, c'est une des histoires en fait où je n'aime pas l'aspect visuel. J'ai quelque chose avec l'aspect visuel, c'est quelque chose que je peux pas expliquer, c'est comme ça. C'est
mais est-ce que tu
ça.
Penses que c'est Douglas Adams qui l'a voulu, ça, ou c'est juste que le...
Non, c'est le département c'est le département artistique des décors.
Parce que le truc des couleurs, quoi, on dirait des jouets pour enfants, quoi, adaptés en géant, quoi.
C'est
quand
là,
on voit les tuyaux bleu-rouge.
Ah, les gros tuyaux.
Ouais.
Là où au niveau là où il y a le moteur.
Oui.
Mais c'est une usine.
Oui c'est
vrai. Oui.
Non mais il y a par rapport à son costume et tout ce qui a été rajouté.
La salle de pilotage elle a un côté SF kitsch quoi. Mais je trouve que le costume du capitaine est encore plus kitsch. Même les overcars aussi là qu'ils utilisent pour aller pour accéder à ce truc qui est tout en hauteur.
J'aime bien.
Très bien fait.
Il y a un côté très 70s justement, ces espèces de portes qui se soulèvent aussi.
J'aurais bien aimé qu'elles fassent du bruit, moi, genre.
Ah. Ah mais tu sais que ça c'est une invention du film au passage,
oui.
Le coup, parce que dans la série télé et puis dans la série radio, en fait, les portes parlent.
Oui, elles parlent, oui, je sais.
Et je suis très content de vous ouvrir, enfin.
En film, c'était pas mal les espèces de soupirs d'ailleurs.
Bon.
Bah c'était plus fin, je trouve, que le texte. Oui.
Vous avez vu, c'est très dur quand même quand on parle de Douglas Adams pour pas dévier tellement cet auteur a quand même une importance dans la culture de l'imaginaire.
Il y a aussi, hein, c'est à ce moment-là que Douglas Adams a enregistré la série radio. Mm. Il était en train d'écrire la série radio pendant qu'il écrivait The Pirate Planet. Hein. Faut pas l'oublier.
Benjamin, toi, ton opinion vraiment sur les effets spéciaux, sur peut-être quelque chose à rajouter.
Ils sont kitschissimes, ça, on peut pas nier. Hein. Le coup du tapis roulant, le coup. Moi, les décors, j'ai bien aimé. Après, le fait que ça place, quand c'est en studio et en extérieur, ça se voit quand même beaucoup. C'est pas filmé pareil. Bon, ça me gêne un peu, mais on n'y peut rien. Et sinon, les effets spéciaux des combats sont ratés, on peut dire. Tir au laser, des trucs comme ça. Mais sinon, globalement, non. Moi, les décors du pont, comme ils appellent ça. J'ai trouvé vraiment très intéressant. Très bien, j'ai bien aimé, ça m'a pas choqué plus que ça.
Avec l'hologramme.
Oui, c'était marrant.
Ouais, c'est même plus peur, la vieille au fait. Hein. Dans son
Pourquoi
fauteuil de dentiste. Bah, je sais pas, ouais. Espèce de bonne femme avec une couronne complètement gelée sur un fauteuil de dentiste, je trouve qu'elle fait super peur.
Bah oui, et moi je trouve que c'est bien fait.
Mais de toute façon, donc là, quels sont quand même les bons points que vous allez retenir de cette histoire? Il y a quand même pas mal de bons points quand même.
Le capitaine au moins.
Capitaine Heinrich, très bien fait.
T'as pas beaucoup parlé ce soir.
Les bons points, c'est une bonne histoire en fait, mais voilà, il manque quelque chose, j'ai l'impression.
Oui, on voit que ça a été un épisode qui a été retravaillé.
Ouais.
Et pas retravaillé.
Est-ce que vous trouvez que la clé du temps, le fait de l'arc, parce que on avait dit que dans The Rebirth Operation, l'arc de la clé du temps n'était pas finalement très utile là. Est-ce que vous le trouvez plus utile? Est-ce que vous trouvez l'arc plus impliqué dans
l'histoire? Là, c'est vraiment le leitmotiv de l'histoire.
Non, mais est-ce que l'histoire aurait marché sans la clé du temps?
Ouais, je pense.
Oui, très.
Bah oui, comme toujours. comme toujours, sauf que là, la clé du temps est vraiment le but du docteur et de Romana d'être sur cette planète.
Oui, mais c'est changeable, sinon, c'est ce que je veux dire.
Ouais, mais à la fin de l'épisode, ils n'ont pas la clé du temps en plus. Hein.
Oui. Tiens, j'ai oublié ça. mais le truc, c'est que, bien sûr que l'histoire aurait marché sans toutes les histoires de la saison 16 auraient marché sans la clé du temps, mais c'est quand même le fil rouge de la clé du temps est plus important dans cette histoire-là que dans l'histoire précédente. Parce que là, c'est vraiment la raison pour laquelle ils sont sur la planète. Parce que sinon, si ça n'avait pas été le cas, ils seraient tombés par hasard sur la planète. C'est ça, la justification de la BBC.
Je trouve que c'est... Là, la clé du temps, c'est vraiment juste pour le tout début d'amener le docteur sur cette planète et tout à la fin, tiens, au fait, faut qu'on récupère la clé, mais tout le reste, ils en parlent pas du tout.
Il n'y aura qu'une histoire où la clé du temps aura vraiment cette apparition, le plus d'importance, puisque au final, c'est dans... Attends, c'est Android of Tara ?
Android of Tara, moi je trouve que c'est déjà parce qu'il trouve la clé du temps dès le début.
Dès le début, voilà. Donc c'est un peu plus d'importance parce que là, pour le coup, il trouve la clé dès le début, mais il faut la récupérer. Mais bon, on est dans les années 70. On n'est pas avec des fils rouges à la Moffat. C'est un peu plus léger, hein. Le but c'est d'avoir une histoire où le docteur a une aventure. La clé du temps, de toute façon, dans la saison 16, c'est toujours un prétexte. Ça n'aura jamais l'importance, à part dans la dernière histoire, bien sûr, puisque là,
ça sert vraiment à résoudre
la situation.
Mais tout le reste de la saison, d'un gardien noir et tout ça, on en fait vite fait allusion dans l'épisode d'avant, mais là, on n'en parle pas du tout.
On va peut-être rebondir sur un avis, celui de Stéphanie Loistron, vous savez, celle qui avait voulu m'être tripée quand j'avais dit qu'elle c'était une passionnée du maître alors que c'était le brigadier. Donc voilà son avis. J'ai vraiment beaucoup aimé beaucoup d'idées dans cet arc, mais peut-on s'attendre à moins de la part d'un scénariste tel que le grand Doug? Tom Baker rend une copie parfaite et toutes les scènes entre le capitaine et son acolyte Mr. Fibberley sont un régal. Malheureusement, les personnages secondaires font vraiment pas le figure du coup et sont franchement sous-exploités, tout comme les Mantiades, dont le concept semblait vraiment très intéressant au début, mais qui sont quasi laissés à l'abandon sur la fin. Mon dieu que c'est long, cette histoire de porte à ouvrir. C'est vrai que c'était un peu chiant cette partie-là. Question imaginaire en tout cas, et comme dit plus haut, on est bien gâté avec la voiture ou bateau volante complètement cheap. Le tapis roulant de tout usager de la RATP ayant des changements à Châtelet ou Montparnasse rêvait à une méthode efficace pour gérer une collection un peu trop encombrante pour les idées les plus marquantes. Un bon épisode donc auquel je mettrai un gros 8 sur 10. Voilà, peut-être pouvez-vous rebondir sur certains détails.
Bah ouais, c'est vrai que le coup de la porte, il prend 3000 ans à ouvrir la première fois, c'est ridicule.
Cette porte, je sais pas si on peut le dire, mais à la finale, en plus,
ça sert à rien.
Ça sert à rien, il l'ouvre pas la porte.
à propos des décors, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'était le décor de la maison dans laquelle habite Prélix. Au tout début, là, j'ai trouvé que les décors complètement kitsch, ça avait pas grand chose à envier au décor de Logan's Run, ou même Cosmos 99.
Logan's Run. La série ou le film ?
La série. Ah, la série Logan's Run, il y a des super sets, vraiment les décors très 70s avec des dystopies complètement délirantes mais toujours très colorées.
Ouh, je crois que Jonathan n'est pas d'accord.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut savoir que le film est excellent mais la série est nulle à chier.
Bah, moi j'aime bien la série.
C'est un autre débat, vous en parlerez post Gallicast. Tu vois, il y a un avis assez rapide de Ronan Lai. J'ai peur d'écorcher. Il était cool. Oui. Kenine m'a fait marrer plusieurs fois. Piece of cake. C'est vrai que cette scène avec piece of cake, avec l'expression où l'un le prenait au pied d'alette. Les twists étaient assez bien amenés et pas trop prévisibles. Et le capitaine très charismatique. Très charismatique. Oui, c'est étonnant quand même parce que, tais-toi. Je trouve quand même que le personnage c'est pas le type de méchant cliché, quoi. Il a quelque chose de particulier et le fait qu'il soit à moitié robotique. Bon, on dirait Julien un peu. Hein? Julien Pringot.
Julien?
Ouais.
T'es vache.
Il va vouloir me tuer, je crois. Et donc voilà, quoi. Il a une classe folle. Et voilà, donc c'est un compliment. Tu vois?
Qui est laissé à l'abandon à la fin. Je trouve.
C'est vrai. C'est vrai. Bah, puisque finalement aussi on apprend que bon voilà, hein, oui, vous voyez ce que je veux dire. Les gens qui ont vu l'histoire comprennent ce que je veux dire.
À la fin, il y a une magnifique scène slash entre le capitaine et Fibuli.
Oui.
Il fallait quand même le préciser.
Il va y avoir de ces fans d'histoires de fans de bientôt de slash. Tu vas créer une vague d'histoires entre le capitaine et Fibuli.
Je vais pas chercher, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver ça. Faudrait que je fasse un tour sur un petit spoon.
Alors, bon, je crois peut-être des choses à rajouter avant que vous donniez votre appréciation finale.
Le
et
DVD
une note.
Est bien.
Ouais, bah, It's Don't Take It to Time. Ouais.
Non, je peux revenir sur l'avis de Ronan.
Oui.
Parce que dans les twists assez bien amenés et pas trop prévisibles, je suis pas tout à fait d'accord. Au contraire, moi, je trouve que c'est un peu soit tiré par les cheveux, soit tu le vois arriver de loin. Quoi.
Mmh. L'histoire quand le docteur arrive sur la planète et que personne lui répond. Répond à Romana.
Ça, c'est assez marrant. C'est du Douglas Adams.
Ouais.
C'est pas... Le coup ouais, que c'est Romana là. Donne des Jelly Babies à la place du docteur aussi, c'était.
Parce qu'en plus, elle lui a fait les poches pour lui piquer cette Jelly Baby.
Voilà, en plus, ouais.
Ouais, ou le moment où, ils utilisent ça comme diversion et ils balancent ça sur le craft.
Bah, j'aime surtout le moment où il prend le paquet et puis il prend un morceau comme si c'était une grenade et il le balance.
Oui, ah oui, et il le balance. Si, c'était marrant, ça.
Mais ça, c'est du Tom Baker.
Donc alors, Heinrich, si tu devais donner une note, combien tu donnerais?
6.
Pourquoi 6?
Bah, parce que il m'a moins plu que The Rebus Operation, et puis, et puis j'avais mis 6,5 à The Rebus Operation.
Ok, c'est aussi simple, il n'y a pas d'autre raison.
Oui, bah, la raison, je l'ai dit, c'est un bon épisode, mais il manque des trucs pour en faire un épisode vraiment incontournable, mais.
Ok, Benjamin?
Moi, je mettrais un petit 5,5.
Ah oui, sévère quand même. Hein.
Oui, je suis méchant parce que j'ai trouvé quand même plus intéressant, contrairement à Heinrich, que Rebus Operation. Mais je suis quand même, comme on disait tout à l'heure, pour moi, la clé du temps est à peine abordée. Les rebondissements sont.
Pas rebondissants.
Voilà, tout à fait. Et il n'y a vraiment que la toute fin qui devient à peu près intéressant, à part cette histoire de porte à ouvrir. Mmh. Mais l'échange du docteur et. Et du personnage qui apparaît dans le quatrième épisode.
Ouais.
Et il n'y a que vraiment là où ça devient intéressant, quoi. Et s'il y a des choses intéressantes quand même quand Romana parle avec le docteur et tout ça, ou qui se met un peu plus en avant, mais sinon, l'épisode, franchement, j'ai regardé sans plus, quoi.
Dusty?
Je pense que c'est pas la meilleure histoire, mais c'est tellement rigolo, le capitaine et Fibuli. Et puis, moi, j'ai bien aimé les décors un peu kitschounés de l'histoire. Quoi. Et puis, le principe de cette espèce de planète creuse qui fait des sauts, je trouvais ça un peu innovant.
Ouais, c'est pour ça que je mets que 5,5. Des trucs intéressants.
Jonathan?
Difficile de donner une note. J'avais donné, il me semble, 5 à la précédente. J'ai pas réécouté Gaïpu, donc je sais plus. Je lui donnerai peut-être 6, un point au-dessus, parce que c'est quand même du Douglas Adams, c'est qu'elle est quand même un peu plus intéressante que la précédente. Mais pour du Douglas Adams, je vais pas dire que c'est très décevant, parce que, enfin, si, c'est décevant sur le point de ce que tu t'attends, mais c'est pas de la faute de Douglas Adams, c'est de la faute du scénariste qui est passé après, qui a gâché l'histoire. Je serais curieux de voir s'il y a des synopsis plus complets ou même un scénario de ce qui aurait dû être fait au départ, voir ce que ça aurait donné. Je suis pas sûr. J'espère que ça sortira. J'attends la novélisation pour voir ce que Gareth Roberts s'en sortirait, parce que dans ce cas-là,
si jamais une novélisation il y a.
Si jamais une novélisation il y a, mais vu qu'ils ont fait City of Death, si City of Death a aussi du succès en novélisation, je trouve que Pirate Planet sortira. Après, peut-être pas par Gareth Roberts, il peut très bien y avoir un autre scénariste, mais Moffat. Ce serait idiot de changer, surtout pour. Ce serait idiot de pas le faire, quoi. Sachant qu'il y a, il me semble, 5 novélisations qui sont jamais sorties, 4 ou 5, et une autre histoire, c'est une du 7ème Docteur, il me semble.
Moi, si je devais lui donner une note, parce que je vous ai trouvé un peu méchant, quand même, moi, je lui donnerais du coup 7,5. Parce que je vous ai trouvé un peu sévère, 5, enfin, quand même aux alentours de 5-6.
J'ai mis 7, moi.
Oui, mais il y a toi t'es l'exception, voilà, mais... Mais voilà, mais j'ai trouvé les autres assez hostiles envers
cet épisode de La Clé du Temps. Donc là, je donne vraiment mon avis sur.
Oui. T'inquiète pas, moi je les ai pas tous vus non plus. Je les regarde au fur et à mesure. Ou certains, je les ai vus, mais je vais les re-regarder. Donc ça fait quelque temps. Mais je trouve quand même que cette histoire bénéficie de qualité, quoi. Je pense que il y aurait pas eu le nom Douglas Adams, on l'aurait trouvé très bonne. Mais c'est le fait qu'il écrit Douglas Adams, on se dit il peut pas faire un truc aussi finalement normal. Pas bon, c'est très bon, mais c'est normal, quoi. C'est pas du Douglas Adams. Et je pense que c'est ça qui déçoit beaucoup. Je pense qu'on aurait, cette histoire aurait été écrite par un autre auteur, il y aurait écrit un autre nom, même David Agnew, je ne sais quoi. On aurait trouvé l'histoire d'une, de meilleure qualité. Je pense que ça influence beaucoup. C'est pour ça que je lui donne quand même la note de 7,5. Parce qu'elle a quand même de bonne qualité, quand on la compare
qualité,
à les autres histoires.
Mais il y a beaucoup de, je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts, quoi. C'est mon avis. Hein. Je vais me faire des ennemis. Vous pouvez me retrouver à tous les stands de Gallifrance.
Oui, c'est lui qui tient le stand. C'est un homme de sécurité.
Voilà, notre homme de sécurité. Alors, peut-être des petites choses à rajouter, des petits détails, et par rapport à ça.
Galufrax, le nom de la planète, c'est ça qui a donné le nom du site qui fait des reviews des fanfics qui sont stockés sur Teespoon. Voilà.
Il y a des reviews des trucs de Teespoon.
En fait, ouais, pour Teespoon, donc les gens qui connaissent pas, c'est la plus grosse archive de fanfiction pour Doctor Who. Ça, c'est woofic.com, là, c'est l'adresse. Et donc, il y a un site qui s'appelle Califrax, qui en fait fait des reviews et toutes les semaines, il y a un nouveau reviewer qui annonce quels sont les trucs qu'il a trouvé sympa à lire. Et donc, ça s'appelle Califrax.
Dans les petites anecdotes comme ça, on apprend aussi dans le, je crois que c'est dans le DVD, je crois que Jonathan confirmera. Comme vous savez, au début de l'histoire, le docteur se mange la console du TARDIS.
Oui, bon, on l'a dit dans l'épisode précédent.
Bah, on le rappelle, ouais. Donc, justement, c'est dû à l'histoire de la morture. C'est dans cette histoire-là, hein.
Non, c'est l'histoire précédente, c'est quand il se fait bouffer par le chien de garde.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est vrai qu'il y a des références à H2G2, il en fout partout. Mais il n'y a pas de panique déjà, hein, dans de panique. Hein.
Mais c'est normal puisqu'il écrivait les scénarios en même temps. Donc je pense c'est involontaire pour moi d'une certaine manière parce que je sais pas si la série radio était déjà diffusée. Je pense qu'en fait, c'est vu travailler sur les deux en même temps, ça se mélange. C'est tout. Ça se mélange.
Il y a une référence à Lila aussi.
Oui.
Avec le docteur qui est inconscient à un moment donné, il dit non, plus de Janice Horn. Ça, c'est Janice Horn, c'est les épines qu'utilise Lila pour paralyser les gens en fait.
Ok, bah vous voyez qu'est-ce qu'on en apprend.
Et moi j'ai trouvé sur internet que dans l'épisode dans un épisode de la nouvelle série où il y a les 10 planètes qui disparaissent là, et ben il fait une allusion, le docteur fait une allusion à la planète Califrax.
Califrax Minor.
Ah oui.
Ah oui, mais c'est vrai.
Je ne l'ai jamais.
Ouais. Bravo.
Ben, merci.
On applaudit. Je suis tout seul, ok.
Applaudir et tenir le bouton appuyé.
Ah bah oui, c'est vrai que vous êtes en push to talk, ce qui est plus compliqué.
Attends.
Bon.
Push to applause.
Non, je voudrais rajouter un truc pour ceux qui ne savent pas quoi lire sur Douglas Adams, enfin qui ne connaissent pas Douglas Adams et qui ont découvert avec l'épisode, enfin l'histoire. Vous pouvez bien sûr lire H2G2.
Ouais.
Dear Gently, mais je ne connais pas vraiment en premier. Familiarisez-vous plutôt avec H2G2 plutôt que Dear Gently parce que c'est un peu plus spécial, disons. C'est un peu plus délirant. Et surtout, si vous voulez lire un livre qui ne soit pas une fiction. Il y a quelqu'un qui joue avec son micro. Enfin, si vous voulez pas lire une fiction, mais que vous voulez lire un bouquin sérieux, même pas scientifique, mais qui soit écrit par quelqu'un qui ait de l'humour, il faut lire Last Chance to See de Douglas Adams, où il a voyagé à travers le monde avec le zoologiste Mark Cowardin pour rencontrer les espèces en voie de disparition. C'est son meilleur bouquin. C'est vraiment son meilleur. Il y a les plus belles réflexions que j'ai pu lire dans des bouquins de zoologie, et c'est absolument génial à lire. Absolument, il existe qu'en anglais, par contre, malheureusement.
Ok. Sinon, si vous voulez lire H2G2, je vous conseille One Other Thing Voilà, hein, le dernier. Pas... le meilleur.
Hey, tu vas rire, mais j'ai toujours pas vu réédité avec les autres. Hein. Mm. Pour l'instant, alors, il est toujours considéré à part.
Oui, c'est le livre. C'est un livre que les fans, enfin, que les fans en général portent pas dans leur cœur. Bon. Alors, je crois qu'on a à peu près tout dit dans ce Gallicast. Bon, évidemment, comme pendant toutes les. Tous les épisodes sur du Gallicast sur la clé du temps, j'essaie de trouver une musique de fin qui a un rapport avec le thème des clés. Hein. Avec Benjamin et d'autres amis à moi, on a passé notre soirée à chercher des musiques en rapport avec les clés. Donc je ne sais pas laquelle je vais vous mettre ce soir.
Fort Boyau.
Non,
je suis passe-partout.
Oui,
de Fort Boyard.
Non, il dit pas clairement les clés, il le dit très peu. J'avais pensé à ça. Donc voilà, il faut qu'il y ait les clés dans le titre. Voilà. Donc en D'accord. tout cas, je ne sais pas ce que je vais vous mettre cette semaine. Je pense avoir une idée. Donc voilà, en tout cas, n'oubliez, restez jusqu'à la fin et un nouvel épisode de Tintin et Mofatopoulos, toujours aussi court, toujours aussi mauvais. Mais voilà. Donc c'est tout pour ce Gallicast et que dire d'autre à part Vavoom.
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 J'ai les clés du paradis.
C'était le Gallicast. Vavoom.
Moi qui n'ai jamais rien gagné. J'ai les clés du paradis. Elles sont juste un petit peu rouillées. Je les ai trouvées dans la rue. Je sais, ça semble incongru. Elles traînaient là, je les ai empochées. On peut rien me reprocher. Je suis pas la plus jolie du lot, mais j'ai un sacré trousseau. Les clés du paradis.
Chut, Milou. Voilà dans le repère secret de Mofatopoulos.
Oh, malheur!
Tintin? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vous allez voir ce que je fais aux fouineurs qui ne se mêlent pas de leurs affaires.
Ah bon? Eh ben, c'est ce qu'on verra! Attrape, Milou! Bien joué, Milou! Dépêche-toi, sinon nous n'aurons pas le temps d'écouter la semaine prochaine le Gallicast consacré à The Stone of Blood de la saison Key to Time. Ah !
Tintin, je vous attrape enfin. Vous allez voir, personne ne s'enfuit jamais avec Mofatopoulos.
À suivre.